Bonjour Hugo, Hugo Bellagamba. Bienvenue à Dounia Reçoit, donc l'émission littéraire de la Tribune des Vagabonds du Rêve. Je te reçois pour parler de ton écriture, de ton activité en science-fiction, en tant que compagnon de route de Nice Fiction, des Vagabonds du Rêve. Donc c'est un ami que je reçois. Donc dans cette émission. Et voilà, je vais te
Bonjour Dunia,
présenter
ravi
un
d'être
peu.
là. Merci.
Alors, je vais te présenter très rapidement et je vais te donner la parole parce que je crois que tu as plein de choses à nous dire sur la science-fiction. Donc, tu as une passion à passer et tu nous diras d'ailleurs si c'est uniquement la science-fiction. Donc,
D'accord.
tu es dans la vie de tous les jours, professeur à l'Université Côte d'Azur en droit, la faculté de droit. Tu enseignes l'histoire du droit et de la science politique et des idées politiques, pardon, c'est pas la même chose, et des idées politiques. Tu es écrivain, tu écris depuis un bon moment. Enfin, je regarde ta biographie, bibliographie aussi. Tu es novelliste, tu es romancier. Et puis essayiste, en tout cas dans les domaines de la science-fiction. Je ne parle pas de travaux que tu ferais par ailleurs pour ton enseignement. Donc en fait, avant de commencer, je vais montrer les livres. Il y en a deux. Un qui s'appelle Le monde de Julia, que tu as écrit à quatre mains, qui est paru chez MU. En fait, c'est Mnemos. C'est une collection de Mnemos, ou un label, je crois, en 2023. Donc, Le monde de Julia, qui est pas une utopie, mais tu nous diras un petit peu.
Ouais, pas loin, pas
Et
loin. Un conte.
pas loin, oui, c'est un conte philosophique.
Écrit avec Jean Barré, bien sûr, coécrit
Bien,
avec Jean Barré.
oui, à quatre mains, mais tu nous le diras tout à l'heure, on en parlera un petit peu juste pour l'introduire. Et puis surtout, on va parler du dictionnaire utopique de la science-fiction, et qui lui est sorti chez Le Bélial, lui aussi en 2023. Donc l'année dernière, tu as eu une année très très active en publication. Et donc cet ouvrage est intéressant parce que quand on lit le titre, dictionnaire utopique, au début, on voit juste utopie, donc on se dit, oh, c'est un dictionnaire sur les utopies. Puis en fait, on se rend compte que ben non, c'est pas ça. Donc tu nous en parleras et puis on finira en discutant sur tes projets. Donc là, j'ai assez parlé. Peux-tu te présenter en quelques lignes et puis nous dire un peu ta formation, nous parler de ce qu'il y a derrière toi?
Tu veux dire ma formation, quoi, mon parcours culturel autant que littéraire, finalement, c'est ça, en fait, hein.
Oui, en fait, ton parcours littéraire et culturel, en fait, pour moi, c'est la
Tout
même
à fait.
chose. Mais
Ouais.
ton parcours, mais ce qui est intéressant, ce que tu pourrais nous parler plus tard, c'est surtout quand on parlera un peu du monde de Julia, c'est le croisement, finalement, entre ces deux univers qui n'est pas évident, mais qui est très réussi. Donc, vas-y.
Merci, Dunia. D'abord, un très grand merci de m'inviter dans ton émission, de me recevoir. Voilà, très content. Et même si on se
C'est un
connaît bien
plaisir.
depuis très longtemps, évidemment, ça c'est toujours voilà l'occasion de dire des choses que peut-être on ne dit pas habituellement à d'autres. Et puis on a le temps ici dans cette émission. Et ça c'est très appréciable. Alors en fait, mon parcours, en gros, de façon assez simple, il est double, comme tu l'auras noté. Comme tu l'as déjà noté, d'une part, il y a un côté, alors évidemment, passionné d'imaginaire, de science-fiction, bon, d'utopie, on va en reparler, qui remonte à l'enfance. Voilà, bah, derrière moi, j'ai une partie des livres de mon grand-père, bien qu'étant un grand-père italien, du côté paternel, il lisait le français très couramment. Et c'est chez lui, à Rome, chez mes grands-parents à Rome, que j'ai découvert Jules Verne. Et donc là, derrière moi, ben, il y a quelques exemplaires des Jules Verne qui lui appartenaient,
Tu
à
es allé en
côté d'un.
Italie pour
Voilà.
découvrir Jules
Ouais, c'est ça, paradoxalement, c'est exactement ça. J'allais en Italie tout petit, en tant que petit-fils, chez mes grands-parents italiens. Et c'est là-bas que je lisais Jules Verne, voilà, dans l'édition qui se trouve derrière moi. Bien sûr, très jeune, voilà, j'ai commencé à lire de la science-fiction aussi en parallèle. J'aimais bien aussi, quand j'étais petit, tous les mythes et les légendes de toutes les civilisations. Je me rappelle qu'à Noël, Je demandais toujours qu'on m'offre des récits et mythes, voilà, de la Grèce antique, des Indiens d'Amérique, de tous les pays du monde. Donc ça faisait aussi partie de ma culture. Donc le rapport à l'imaginaire est venu avant le rapport à la science-fiction. Je dirais que ça a été d'abord l'imaginaire du mythe, ensuite peut-être l'imaginaire de Jules Verne, même si je n'ai pas lu tout Jules Verne, hein, je ne me considère pas comme un spécialiste non plus, voilà, de Jules Verne. Et puis petit à petit aussi, bah, la science-fiction, avec les grands auteurs de science-fiction que j'ai découverts vers l'âge de 10, 12 ans, 13 ans, 14 ans, enfin voilà, tous les grands classiques. Ça, c'est un côté. Et puis l'autre côté de ma, je dirais, de ma peut-être culture littéraire, si on peut appeler ça comme ça, c'est la passion pour l'histoire. C'est pas un hasard, hein, si je suis devenu historien du droit. J'aime bien l'évolution des sociétés. J'adore l'Antiquité. J'adore tout ce qui a trait aux grandes civilisations de l'Antiquité et au Moyen Âge, à la Renaissance aussi, mais en tout cas au début à l'Antiquité. Et donc j'aimais bien découvrir tout ce qui concernait, voilà, les grandes civilisations mésopotamiennes, égyptiennes, grecques, etc., perses ou autres. Et ça m'a amené petit à petit à rester sur ce lien avec l'histoire. Et qui m'a amené petit à petit à devenir aussi, après des études de droit, que un peu des études faites par raison, plus que par passion. Moi, j'aurais voulu faire de la philosophie, mais mes parents semblaient considérer que c'était moins dangereux de faire du droit. Et donc, j'ai fait du droit, mais je n'étais pas, au début, en tout cas, un juriste très passionné, en tout cas pas pour toutes les matières. Et c'est par l'histoire du droit que j'ai pu conjuguer à la fois ma passion pour les civilisations de l'Antiquité, pour les sociétés, les sociétés autres. J'aime beaucoup l'anthropologie aussi, évidemment, pour les sociétés différentes. Et puis cette passion, eh bien, elle s'est conjuguée à celle de l'imaginaire, à celle de l'utopie, de rêve d'une société meilleure. Et finalement, comme tu l'as dit, en fait, hein, tout mon parcours, c'est la patiente et progressive convergence, rapprochement. Entre ces deux amours, l'amour de l'imaginaire et puis l'amour de l'histoire, on peut dire, en tout cas, qui m'a amené petit à petit à devenir à la fois historien du droit, avec la chance que j'ai eue de pouvoir faire un parcours d'historien du droit, d'être accepté en thèse, et puis d'être recruté comme maître de conférence. Et puis en parallèle, eh bien, de commencer à écrire mes premiers textes dans les années 90. J'avais écrit avant, hein, pour mes amis. Depuis l'âge de 12 ans, j'écrivais des petits textes, mais c'était pour les copains, hein, c'était vraiment sans aucune ambition littéraire ou en tout cas de publication véritable. Et puis ben voilà, petit à petit, les choses se sont mises en place pour arriver à aujourd'hui où je n'ai de cesse de marier les deux. Et le monde de Julia l'incarne bien, on en parlera peut-être tout à l'heure,
Oui,
voilà,
justement,
entre l'histoire et l'imaginaire.
j'ai une question. Ces textes que tu écrivais enfant ou peut-être adolescent, je ne sais pas exactement à quel âge tu as, je pense vers 10 ans peut-être, un peu plus
Oui,
tard,
vers 12 ans, ouais. Oui,
12 ans,
12 ans.
est-ce que tu les as encore en tête? Est-ce qu'il y en a un qui t'a marqué ou qui reflète un peu ce que tu es devenu plus tard? Ça serait
Oui,
intéressant.
alors il y en a un qui a été écrit pour mes amis, j'en parle pas souvent, hein. C'est un peu plus tard quand même, hein. J'ai commencé à écrire. Bon, souvent j'écrivais par mimétisme. Je crois qu'un des tout premiers textes que j'ai écrit, c'était une nouvelle de Conan le Barbare.
Ah
Parce
oui,
que
donc
à
déjà
l'époque,
tu
j'avais
étais dedans.
découvert, voilà, Robert Howard, tu vois, c'est plutôt de la fantasy. Et alors, j'avais commencé une nouvelle comme ça, voilà. Mais surtout, un texte qui a été marquant, c'est un texte que j'ai fait pour mes amis, quand j'avais peut-être 15, 16 ans, 16 ans, je dirais. J'étais en première, ou peut-être, oui, en première, quelque chose comme ça. Et j'avais écrit un texte où, je me rappelle, je voyageais dans la Lune. En fait, la Lune était un portail, hein, était une porte. Hein. Et donc, c'était plutôt du fantastique, en fait. Hein. C'était pas vraiment de la science-fiction.
Oui.
Et la Lune était une sorte de lucarne, comme ça, suspendue dans le ciel, où on montait vers la Lune avec une sorte d'escalier de glace, etc. Et de l'autre côté, il y avait un monde totalement imaginaire, où tous mes amis se retrouvaient transfigurés, un peu comme dans Alice au Pays des Merveilles, ou comme dans Le Magicien d'Oz, plutôt même. Et on retrouvait donc tous les gens qui m'entouraient, transfigurés en fonction de leur personnalité. Et puis il y avait une quête, enfin voilà, il y avait des aventures. Alors, ça s'appelait, c'était un titre impossible à, évidemment à publier, ça s'appelait Voyage dans la proposphère. Et pourquoi la proposphère? Ben, parce que propius, c'était les proches en latin, et donc c'était voyage dans la sphère des proches, littéralement voyage en amitié, quoi, en quelque sorte. Et ça, j'avais voilà, j'avais 15-16 ans, et c'est un des premiers textes que j'ai vraiment écrit. Et c'était, j'avais la passion de la science-fiction, hein, je lisais. Les auteurs classiques de l'âge d'or, mais c'était plus du fantastique et de la, voilà, presque du conte, en fait, en réalité.
C'est une belle idée en tout cas. Peut-être que tu devrais la recreuser maintenant
Ouais, peut-être, peut-être.
quand
Ouais.
tu auras un moment.
Je me suis promis d'y revenir quand on serait tous beaucoup plus vieux, ce qui est le cas.
D'arriver,
Mais
oui.
pour
D'ailleurs, bon,
l'instant,
t'as encore le temps.
les amis voilà, que j'ai gardés n'ont pas encore réclamé à cor et à cri la
Voilà.
suite.
Ah oui, et oui, c'est vrai que tu as les amis, mais après tu peux enlever les
Oui.
amis.
Ouais.
Et en fait, quand tu parles comme ça de ce travail, en fait, ce qui m'a fascinée, parce que j'ai eu la chance de te côtoyer en tant que collègue, enfin, du monde des bibliothèques, hein,
Bien
j'étais
sûr,
pas
bien sûr.
enseignante, c'est justement comment tu as arrivé à faire rentrer dans l'un des endroits les plus improbables qui soit, qui est une faculté de droit, cette passion et ce que c'est devenu. Parce que c'est un peu c'est aussi un aspect de ce que j'appellerais un activiste de la science-fiction. Donc.
Oui, j'ai fait de l'entrisme de la science-fiction en droit. Alors, en fait, ça n'a pas été évident du tout. D'abord parce que la faculté de droit, non pas qu'il n'y ait pas des gens qui aiment la science-fiction, parce qu'ils aiment beaucoup de choses, et les juristes ont souvent, d'ailleurs, s'intéressent à beaucoup de choses. Pour être juriste, il faut s'intéresser à la société dans toute sa diversité. Donc, voilà. Mais c'est vrai que la science-fiction, c'était pas du tout dans le champ, voilà. Et même l'utopie, hein, pour te dire, Dunia, quand j'ai commencé vraiment, voilà, à vouloir écrire, publier, etc. Même l'utopie, je me rappelle, c'était pas quelque chose de pris au sérieux. Il y avait quelques historiens du droit qui travaillaient sur l'utopie, mais ils étaient très minoritaires. Et quand moi je me suis retrouvé, notamment, par exemple, à commencer ma thèse à Aix-en-Provence. Je me rappelle que même avant la thèse, quand j'avais un mémoire à l'époque on appelait ça un DEA, maintenant c'est un master, j'ai voulu travailler sur l'utopie de Tommaso Campanelle, la Cité du Soleil. Et je me rappelle qu'on m'avait dit, bah, écoutez, oui, pourquoi pas, si ça vous intéresse. Mais enfin, sous-entendu, c'était pas quelque chose, voilà. Et donc il a fallu se battre. Et c'est une des choses dont je suis le plus fier, en fait, aujourd'hui, avec le recul, hein, c'est d'avoir contribué un tant soit peu à faire admettre aux juristes dans l'univers de la faculté de droit que l'utopie et la science-fiction, par ricochet, hein, puisqu'il y a, voilà, y a une continuité, ne sont pas simplement des objets littéraires destinés à être étudiés par des littéraires, ne sont pas simplement des objets politiques, notamment l'utopie, la contre-utopie, la dystopie, voilà, destinés à être étudiés par les spécialistes de sciences politiques, en fait. Mais peuvent être aussi des objets et des sources de réflexion utiles pour les juristes, hein, et notamment parce que bah, dans toutes les utopies et dans tous les récits de science-fiction, très souvent, et comme je le dis dans le dictionnaire, on y reviendra, il y a des enjeux judiciaires, des enjeux politiques, des enjeux institutionnels, il y a des modèles de société alternatifs qui sont interrogés, et tout ça peut créer un répertoire utile pour les juristes. Alors ça, c'était faire entrer la science-fiction dans le droit. Et en même temps, bien sûr, parce que je ne veux pas vous donner l'impression que je ne suis pas juriste non plus, je suis très heureux d'être historien du droit et de réfléchir à l'évolution des systèmes juridiques. J'aime beaucoup mon métier d'enseignant-chercheur. Et donc l'idée, en retour, finalement, c'était aussi de faire entrer, même si ça existait déjà, bien sûr, hein, mais en tout cas, les problématiques du droit dans la science-fiction. C'est-à-dire dans mes récits, comme des enjeux narratifs. Et si tu regardes bien dans mon parcours, bah, dès le départ, hein, dès les premiers textes, il y a beaucoup de réflexions, d'éléments juridiques ou judiciaires ou de personnages issus du monde de la justice qui se retrouvent dans mes textes. Et bien souvent, pour faire une transversalité plutôt voilà, sur 25 ans d'écriture à peu près, hein, on retrouve des enjeux de modèles de société, de modèles sociaux, qui sont, voilà. Donc, C'est vrai que ça n'a pas été facile au début. Je me suis pris des tas de remarques très désagréables que j'ai oubliées. Un peu de moquerie, un peu de dérision, parfois même un peu de méchanceté. Mais ça ne m'a pas arrêté. Et au final, aujourd'hui, au contraire, des années et des années plus tard, je dis 25 ans, mais c'est ça, hein, c'est 25 ans, la science-fiction est reconnue, et l'utopie en particulier, hein, comme un outil et une source pertinente dans le milieu de l'université et dans le milieu juridique en particulier. Et quant à l'autre côté, bah, pour la science-fiction, ça n'a jamais été le problème. Tu sais aussi bien que moi que le milieu de la science-fiction est extrêmement ouvert et diversifié. Et personne ne m'a jamais reproché d'être un juriste en science-fiction. En revanche, hein, il y en a eu d'autres avant moi, des gens très, très importants d'ailleurs. Et donc ça n'a jamais été un problème. On m'a jamais, on m'a jamais dit, oh là là, qu'est-ce que c'est que ce juriste qui vient nous déranger? Pas du tout. Voilà.
Non, c'est même intéressant parce que justement, ces gens très très sérieux qui viennent nous voir et qui finalement nous montrent que qu'il y a tout dans la science-fiction, donc effectivement, dans... mais c'est vrai qu'il y a eu des ouvrages sur des sociétés de la science-fiction, et comme tu dis, c'est toujours dedans. À partir du moment où tu construis un univers et où il
Bien
doit
sûr.
fonctionner avec des interactions, c'est peut-être inconscient ou conscient, ça dépend sans doute de l'écrivain, parce que s'il a ou
Oui,
pas
mais
une sensibilité à.
tout à fait. Ouais. Tout ça n'était pas consciemment voulu, hein, au début d'ailleurs, j'avais même pris un pseudonyme, Michael Reiss, sur les conseils de Gilles Dumay. Pour pas qu'on me dise, ben alors, monsieur Balagamba, au lieu d'écrire votre thèse, vous écrivez de la science-fiction, quelle drôle d'idée, on va pas vous donner de poste, tu vois. Donc j'étais parti sous pseudonyme. Mais pour te donner une petite anecdote qui peut être marrante, pour ceux qui me connaissent moins bien, ceux qui me connaissent un peu peut-être l'ont déjà entendu, mais pour te montrer l'évolution du milieu universitaire au regard de l'imaginaire, et que d'autres défendent, hein, je ne suis pas le seul, hein, à avoir. J'ai simplement contribué, hein, à cette évolution. Quand j'ai commencé vraiment au tout début, c'était dans les années 2000, hein, peut-être même pas 2000 encore, il y a eu L'école des assassins, qui était un roman coécrit avec Gilles Dumay. Et donc c'était du manga littéraire, tu vois. Et je me rappelle très bien du regard très circonspect et un peu, voilà, de mes collègues au tout début, qu'est-ce que c'est que cette école des assassins? Mais enfin, mais qu'est-ce que c'est que ces couvertures avec des robots tueurs? Enfin voilà, bon, c'était très. Et puis des années plus tard, et là je te parle c'était fin des années 2010, tu vois, vers 2018-2019, une collègue qui m'appelle pour me dire, voilà, on fait un colloque sur l'administration pénitentiaire, les prisons, et on aimerait que vous interveniez. Et je lui dis, on est devenus amis depuis, hein. Et je lui dis, mais enfin, je ne suis pas spécialiste de l'administration pénitentiaire. Elle me dit, mais c'est pas grave, parce que vous êtes aussi auteur de science-fiction et on a besoin de vous parce qu'on voudrait avoir le regard de l'imaginaire sur la prison et notamment de l'imaginaire futuriste de la science-fiction. Et ça voulait dire bah, que le monde avait changé, que c'était gagné, tu vois, et que la science-fiction trouvait sa place. Alors, pas du tout une place prédominante, hein, bien entendu, hein, mais sa place. Dans le spectre des sources et des sources de réflexion sur des sujets aussi arides et techniques, et en tout cas difficiles et spécifiques que peut être, par exemple, la question des prisons pour les juristes, tu vois, voilà, en droit
Ah
pénitentiaire.
oui, puis il y en a des
Ah
situations, surtout dans les séries
oui,
de
bien sûr.
science-fiction, des enfermements, des,
Des injustices,
des
n'en parlons pas.
injustices. Ben, écoute, on va continuer. Et en fait, avant d'attaquer les textes proprement dits, là, je vérifie, tu écris des nouvelles et tu écris des romans. Et là, tu as écrit un essai aussi, le dictionnaire. Qu'est-ce que pour toi, est-ce que pour toi, il y a une, c'est une question que je pose systématiquement. Est-ce que pour toi, il y a une différence entre ces deux écritures et quand tu écris une nouvelle ou un roman, quelle est la différence?
Oui, il y a une très importante différence et je préfère de loin écrire des nouvelles que des romans. Et si tu regardes attentivement mon parcours, même les romans que j'écris sont souvent des nouvelles ou des novellas maquillées. Tu prends par exemple Tancrède,
Oui.
qui est divisé en deux parties et qui sont pratiquement deux très longues nouvelles ou deux très courts romans, enfin comme tu veux. Donc moi, j'ai une préférence très claire. Peut-être parce que quand j'étais petit, je lisais la grande anthologie de la science-fiction en livre de poche. Tu sais, ces histoires de cosmonautes, histoires galactiques, histoires de voyages dans le temps, histoires mécaniques, histoires fausses, enfin, toutes les 36 volumes qu'avaient mis en place Gérard Klein, Jacques Guamard, voilà, plein d'autres. Je préfère la nouvelle de loin. Je trouve qu'elle est plus percutante, elle est plus exigeante, elle est plus spéculative. Pour moi, la science-fiction, elle doit être spéculative, c'est-à-dire qu'elle doit nous pousser à interroger nos représentations du monde et le faire de façon légère et de façon finalement attractive et un peu ludique aussi. Et ça, je pense que c'est l'exigence, la dynamique absolument première dans la nouvelle. Hein. Pas forcément d'avoir une chute et tout ça, mais en tout cas cette exigence-là. Alors que dans le roman, tu vas accorder plus de place à l'univers que tu construis. D'ailleurs, les grands créateurs d'univers sont des romanciers, hein, pour la plupart d'entre eux. Voilà, que ce soit Brian Aldiss, Herbert, enfin, ou Anne McCaffrey, ou enfin, voilà, tous ces auteurs. Et donc, tu installes plus dans la durée, et tu peux finalement te concentrer plus sur les personnages uniquement, le vécu des personnages, etc. Donc, c'est moins spéculatif. C'est-à-dire, ça peut l'être spéculatif. Mais la spéculation est finalement passe au second plan et finalement tu racontes la vie de personnages dans des univers fictifs. Alors j'aime bien ça aussi, mais jusqu'à maintenant dans mon parcours, je ne me suis jamais départi de ce sentiment du primat de la priorité à l'interrogation. Voilà. Moi j'aime bien que mes textes posent des questions, souvent d'ailleurs. On me l'a reproché, on m'a dit que parfois que mes personnages n'étaient pas toujours assez incarnés. Bon, après, ça dépend des
Oui,
contextes,
ça
évidemment.
dépend. Oui, bien sûr. Oui.
Mais voilà, et donc je préfère la nouvelle hein, au roman. Et d'ailleurs, les textes qui me sont le plus chers, même si Tancrède a été fait pour des raisons très personnelles aussi, par exemple, sont les textes courts et même Le monde de Julia, tu vois. Et d'ailleurs, c'est pas un hasard si souvent quand j'écris des romans, j'écris en co-écriture, parce que j'aime bien être accompagné quand il s'agit d'écrire un roman, parce que sinon j'ai peur un petit peu de m'ennuyer. Alors qu'en tant que lecteur, j'aime bien les romans, en revanche. Hein,
Oui,
voilà, c'est pas,
j'aime bien qu'on
ça me
t'emmène en
dérange pas.
promenade.
Voilà. Oui, j'aime bien qu'on m'emmène en promenade sur des centaines de pages.
Mais en fait, effectivement, le monde de Julia, je vais en profiter pour en parler un peu parce que c'est une histoire un peu particulière. Ça ressemble un peu à un roman choral. En même temps, il y a des histoires qui ont l'air d'être parallèles. Mais justement, quand tu as écrit ce roman, déjà, pourquoi y avoir pensé et comment tu l'as fait? Je sais qu'on voulait faire une rencontre avec
Avec
l'autre, ton
Jean,
co-auteur, donc
bien
Jean
sûr.
Barret, mais bon, on aura peut-être l'occasion cet hiver si
Oui,
vous trouvez un moment, c'est
j'espère.
intéressant
Jean est extrêmement occupé et comme il est
j'imagine.
avocat, il plaide beaucoup et il a toujours du mal à trouver du temps. Bah là,
Mais
il avait
là,
trouvé du temps pour écrire avec moi et j'étais ravi. Et
c'est
puis, il écrit
déjà
très
beaucoup.
vite, hein, Jean. Il a un atout incroyable. Il est capable d'écrire très, très vite. Alors, l'histoire du monde de Julia, en fait, c'est l'histoire d'un échec et d'une
Un
réussite.
échec, ah
Ouais, c'est l'histoire d'un échec, absolument. Un des échecs, d'ailleurs, les plus durs de ma carrière, puisque moi, je suis publié depuis 1998, exactement. La première publication, c'était dans Étoiles vives. Voilà, donc ça fait bah,
c'est
25,
une
25,
nouvelle,
26 ans. Ouais, c'est une
oui.
nouvelle qui s'appelait Écrire l'humain, qui était très courte, qui avait été choisie par Gilles Dumay avec l'accord d'Olivier Girard. À l'époque, Étoiles vives, c'était une anthologie périodique. Bah, c'est un échec parce que c'est un roman que j'ai écrit pour ma fille, Margot. À l'époque, c'était il y a longtemps, donc quand j'ai commencé, elle avait 11 ans, voilà. Et je voulais lui parler de la justice, mais dans un univers fictif. faire une parabole sur ce qu'était la justice, un peu, voilà, un peu dans cet esprit, ben, toujours de conte en fait, hein, tu vois, de conte un peu philosophique. Le rêve, c'était d'écrire un conte juridique. Et donc, j'avais trouvé cette histoire tu sais, d'opposition entre le droit positif de la vie, un droit un peu en déliquescence, un peu, tu vois, qui avait perdu les questions fondamentales du droit. Pourquoi le droit? Qu'est-ce qu'un être humain? Comment s'organise-t-il avec ses semblables, etc.
Oui, parce
Et
que
puis,
là, c'est un univers qui est rasé, là. Enfin, c'est une
oui, c'est
société qui est
ça, voilà,
complètement
ouais, tout à
rasée,
fait,
quoi.
qui est
Finalement.
complètement, qui a échoué
Oui.
finalement sur la sociabilité. C'est une société très violente, etc. Et puis, les fondements du droit naturel, c'est qu'est-ce qui, dans l'être humain, fait qu'on peut dépasser la violence et choisir l'entente et la conciliation plutôt que la violence. Et donc, l'idée, le pitch de départ était très simple. C'était une jeune fille, hein, qui était, si tu veux, qui était envoyée hors de la ville, hein, dans la montagne, hein, dans une station de ski désaffectée, où elle ne vivait finalement qu'avec un robot, un petit robot, pas une intelligence artificielle extrêmement brillante ou dominatrice ou autre, hein, non, un petit robot qui lui donnait des cours, des conseils, qui dialoguait avec elle, qui la protégeait, etc. Une sorte de presque de 6PO, de R2D2, tu vois,
Oui,
voilà.
c'est ça, c'est
Et c'était
très.
un petit conte comme ça, et avec plein de discussions, et puis des événements, des péripéties, des explorations. Bon. Écoute, le livre a été refusé absolument par tout le monde.
Ah.
J'ai dû le proposer à une dizaine d'éditeurs, hein, en science-fiction et hors science-fiction. La réponse a toujours été la même, pour des raisons différentes. C'était non, toujours non. En science-fiction, c'était bah, c'est pas assez palpitant, il n'y a pas assez de technologie, c'est pas assez, voilà, bon, c'est pas assez futuriste, hein. Et puis dans la littérature générale, où j'avais fait plusieurs éditeurs aussi, comme les éditions Zulma, que j'aimais bien, voilà, c'était oui, bah, c'est du conte, mais du coup, il y a un peu trop de science-fiction dedans. Donc voilà, on était coincés entre les deux.
C'était tombé
Et
dans
voilà,
les
c'était tombé
étagères,
dans,
oui.
exactement, exactement, dans l'interstice, tu vois.
Voilà.
Et ce texte-là a attendu un publié, et c'était une souffrance pour moi parce que j'y ai mis tout mon cœur. La rencontre avec Jean Barré qui s'est faite aux Utopiales, hein, très rapidement dans les années 2000, 2000, on était en 2020, tu vois, 2019, peut-être avant le Covid, 2018, voilà. Et puis on a commencé à en discuter. Lui était juriste aussi en science-fiction. Et donc on a discuté d'abord de droit, tous les deux. Et puis on avait une approche radicalement différente du droit, tous les deux. Donc du coup, très intéressante pour échanger. Et je vais parler de cet échec. Il m'a dit, bah, fais-moi lire quand même le roman. Il a lu le roman qu'il avait aimé, il avait beaucoup aimé. C'était pas très long en fait, hein. D'ailleurs, Julia n'est pas très long dans l'absolu. Et il m'a dit, mais oui, mais c'est dommage parce que Hugo, tu vois, il me dit, tu n'as pas développé la ville. Hein. Tu dis que la ville est en déliquescence, tu extrais ton personnage principal de la ville, mais on aimerait bien savoir quand même. Hein. Ce qui se passe en ville, est-ce qu'il y a des clans, tu vois, voilà. Et alors, je lui dis, bah, écoute, si tu veux, vas-y, écris les clans de la mégapole, puisque c'est comme ça qu'elle s'appelait, cette ville, elle n'avait pas de nom,
Oui.
les clans de la mégapole. Et alors, ça l'a amusé. Il a commencé par faire un chapitre qui m'a beaucoup plu. Et surtout que, tu vois, un dialogue, une sorte de dialogue s'inscrivait presque de façon magique entre ce qu'il écrivait et ce que moi j'avais écrit. Et donc, il a développé toute la partie de Mégapole. Hein, et puis, à la fin, on a décidé qu'il fallait fusionner les deux parties du roman.
Oui,
Donc,
c'était
on s'est
l'intérêt aussi.
retrouvés, voilà, c'était l'intérêt, bien sûr, de les confronter, avec une fin que je ne dévoilerai pas, évidemment, mais qui est, je dirais, comme ça, douce-amère, voilà, sans la dévoiler. Et là, on l'a proposé, et grâce, je rends grâce à Hélène Cruciani, qui est une grande amie et qui est
C'est
venue nous
aussi
voir.
une autrice,
Et qui
d'ailleurs,
est
de
une
science-fiction.
autrice, une artiste avec beaucoup de cordes à son arc et notamment beaucoup de. C'est une marionnettiste absolument fabuleuse. Les Pulse Puppets, voilà, qui ne connaît pas encore ça, allez vite voir de quoi il s'agit. Et elle m'a dit, bah, il y a Mu, il y a le label Mu. Mu, c'était quoi? C'était un label de Mnemos qui au départ était un éditeur indépendant en la personne de David Atuil. Et Mu avait intégré Mnemos pour devenir une sorte de label de littérature générale au sein d'un éditeur de science-fiction, ce qui a déjà été
Oui.
absolument original et inattendu, si tu veux. Et donc, Hélène m'a dit, vous devriez essayer ça parce que ça correspond bien. On a envoyé à MU. 15 jours après, on avait l'acceptation.
C'est
Et on a,
extraordinaire. Vous avez trouvé
magique.
votre fée, quoi.
On a trouvé exactement notre fée. Davy Atwill, qui est un très bon éditeur, évidemment, nous a fait travailler, nous a fait retravailler. Il n'a pas accepté le livre comme ça, hein, comme tout éditeur qui se respecte, il a fait retravailler. Mais il était enthousiaste pour le livre, pour son originalité, et ça nous a amené voilà, à la publication de Julien en 2023. Donc tu vois, ça a mis beaucoup de temps. Beaucoup
Oui,
de temps.
et puis ta fille avait grandi pendant ce temps,
Et
mais
ma
elle l'a
fille
lu
a bien
peut-être
grandi, donc elle l'a lu. Elle
l'a
l'a
lu.
lu l'année dernière, à 19 ans. Et elle a aimé, je crois que le livre lui a plu. Et ce qui m'a beaucoup plu, c'est qu'elle a dit, mais j'aime aussi beaucoup les parties de Jean Barret avec les clans dans le mégapole, parce que c'est palpitant, justement, et on se demande ce qui va se passer. Et donc, j'étais très, très heureux, voilà. Et je remercie évidemment Hélène et Jean aussi, parce que Jean m'a fait confiance et il a... C'est lui qui a, c'est Jean hein, qui a sauvé le projet, hein, sinon ce projet serait resté lettre morte.
Bah, disons que c'est une rencontre
Oui, c'est
littéraire,
ça, tout à fait. Humaine,
d'écriture.
littéraire. Et puis, on est... alors, il n'y a pas plus radicalement opposé que Jean et moi sur le rapport que nous avons au droit. Mais bon, ça, c'est pas peut-être pas le sujet, puis il faudrait qu'on en parle tous les trois.
Oui,
Donc, il faudra une autre rencontre,
il faudra le
mais en tout cas,
rencontrer.
avec un respect mutuel énorme et beaucoup de joie dans nos discussions
Mais
sur.
c'est en plus un objet qui reste un ovni pour utiliser une image éculée, mais qui est qui est vraiment réjouissant à lire. Hein. Pour le coup, c'est un très,
Oui.
très, c'est très original. On est là, on ne sait pas trop où est-ce que ça va mener. Moi, je le conseille. Hein. Puis c'est un très beau livre. Hein.
Ben, merci beaucoup.
C'est bien d'arriver à écrire à deux, hein, parce qu'on peut faire des choses. Parce qu'effectivement, on sent qu'il y a deux personnalités différentes, même en termes d'écriture, et ça fonctionne, parce que ça pourrait ne pas fonctionner, en fait.
Ben, écoute, merci beaucoup, Dounia. Quand je disais oui, c'était par enthousiasme pur, hein, mais on sait qu'il s'est bien vendu, par exemple,
Ah ben
alors qu'on avait beaucoup d'inquiétudes. Pour le fait que les ventes seraient peut-être très discrètes, on va dire à tout le moins, par rapport au tirage, évidemment. Bon, moi, je
oui.
ne fais pas attention en général à ce genre d'aspect, c'est vrai, mais c'était quand même important de le savoir. Et Davy Atwill était plutôt content de la manière dont le livre a été reçu. Voilà.
Bah, écoutez, moi je conseille de le lire. Hein. Donc, Le monde de Julia de Jean Barret et Hugo Bellagamba chez Mnemos Mu. Voilà. Et là, on va passer à quelque chose qui était beaucoup plus personnel, qui est ton dictionnaire, parce que on a des choses à dire aussi autour de ce travail. Ce que je n'avais pas dit, par contre, qui est très important, c'est que non seulement, donc je fais un aparté, non seulement tu as effectivement réussi à faire entrer la science-fiction dans le milieu du droit, mais enfin de universitaire, hein, on s'entend, mais en plus tu travailles beaucoup sur les conventions, les festivals, dont Nice Fiction, hein, tu as été aussi. Alors, je ne sais plus quel était ton titre aux Utopiales pendant 4 ans, tu as
C'était
été.
délégué artistique.
Délégué artistique, oui, pardon. Et donc, tu as fait deux conventions, tu as organisé deux conventions. Dans la dernière, c'était la 48e, et donc pas si longtemps que ça, qui a eu lieu à Valbonne, donc
Tout
à
à fait.
Nice, enfin à côté de Nice.
Oui,
Donc,
à
c'était
côté de Nice.
aussi. Tu as quand même un rôle de passeur. Tu n'es pas uniquement, entre guillemets, un écrivain, tu es un passeur à plusieurs niveaux. Et effectivement, je pense que ça te permet d'avoir des rencontres enrichissantes qui doivent nourrir ton imaginaire pour le coup et ta
Absolument.
créativité, ton écriture en tout cas.
Ouais, tout à fait. Tu as tout à fait compris. D'ailleurs, cette partie-là me tient énormément à cœur parce qu'elle m'enrichit. C'est celle-là qui me sert de moteur. Ce n'est pas simplement le fait d'être passeur, mais c'est le sentiment aussi de participer à quelque chose de plus grand que moi. J'aime bien cette dimension collective de la science-fiction. C'est pour ça que j'ai organisé des conventions, que j'ai fait des colloques, que j'ai été délégué artistique aussi. J'aime bien cette idée d'échange et d'enrichissement mutuel. Ce sont les rencontres qui me nourrissent et qui me donnent envie d'écrire, d'ailleurs, hein, bien, bien souvent. Et donc, oui, je me considère comme un relais, peut-être, je sais pas, passeur, mais en tout cas, un relais, en tout cas, d'imaginaire. Et aussi bien, d'ailleurs, j'essaye de l'être à l'université que dans le milieu de la science-fiction, enfin, de l'imaginaire à proprement parler. Ouais, tout à fait.
Alors, le dictionnaire, donc dictionnaire utopique de la science-fiction que je montre là, mais on le trouve facilement, qui a une très très belle couverture, qui rappelle un
Cédric Ducaille,
peu,
ouais.
je ne sais pas s'il s'en est inspiré, justement, il y a une cité, il y a des cités comme ça qui ont été faites au 19e siècle, utopiques en général, autour d'entreprises ou d'usines. Ça rappelle un petit peu ça. C'est donc, par contre, là, on est chez le Bélial, donc et c'est un essai, c'est un dictionnaire, c'est un travail plus de réflexion sur la science-fiction. Sauf que c'est Hugo, donc c'est pas un dictionnaire qu'on ouvre, c'est pas un Robert qu'on ouvre pour avoir des définitions. C'est
Oui, c'est pas
beaucoup
des
plus.
définitions, ouais.
Voilà. Et
C'est
justement, le mot dictionnaire, alors un dictionnaire utopique. Alors, comme je te disais tout à l'heure, quand on dit utopique, on pense que c'est effectivement un dictionnaire qui prend les utopies les unes après les autres et qui les décline. Mais en fait, après, on se dit, mais est-ce que c'est pas le dictionnaire qui est utopique? Donc, j'attends que tu nous en parles un peu justement du titre et puis de l'histoire de ce livre avant qu'on rentre
ouais.
dans les définis, enfin, dans
Tout
les
à fait.
entrées, ou plutôt peut-être que des
Ouais.
définitions.
Alors, merci pour cette question parce qu'elle va me permettre de dire comment je l'ai conçu, ce dictionnaire. En fait, c'est un dictionnaire amoureux de la science-fiction et de l'utopie. Et comme j'avais écrit en 2022 ce qu'on appelle à l'université une monographie sur les utopies, je voulais, si tu veux, sortir un peu du monde académique et reprendre un peu la même démarche sur le monde de la science-fiction, très ouvert et moins, voilà, moins centré sur des critères académiques finalement. Et donc je cherchais le bon format. Roland Lehoucq, qui est le directeur de la collection Parallaxe, au début attendait un essai. Alors, comme d'habitude, hein, avec moi, les gens attendent très longtemps. Donc Roland, ça fait quand même bien au moins 5 ans, 4-5 ans, hein, qu'il m'avait dit, il faut que tu écrives un essai sur les utopies, sur la science-fiction, la continuité entre les utopies et la science-fiction. J'attends ton essai, il me relançait, il me relançait, il me relançait, ça venait pas. Bon, bref. Et puis, je me suis dit. Et c'est là où, tu vois, je vais un peu bémoliser le côté essayiste, en fait. Hein. Je me suis dit, j'ai pas envie de livrer un essai. Un essai qui voudrait être un essai, non pas définitif, mais extrêmement sérieux, avec un plan en chapitre, en sous-section, tu vois, voilà. Ça m'allait pas, ça. Je trouvais ça, c'était trop contraignant. Et je voulais que ce soit aussi un cri d'amour, tu vois, à tout ce que la science-fiction à hériter de l'utopie, cette capacité à décrire des mondes alternatifs dont finalement la crédibilité n'est pas le critère principal. Ça nous permet de penser notre société, etc. Et donc, j'ai eu cette idée du dictionnaire grâce à mon oncle. Il m'avait offert le dictionnaire philosophique d'André Comte-Sponville, un philosophe. Et dans un des Noëls précédents, mon oncle, voilà, était psychanalyste, et donc il m'offre toujours des bouquins qui sont très déclencheurs. Et j'aimais bien cette idée d'adjectif, dictionnaire philosophique, tu vois, dictionnaire utopique. Et j'ai trouvé la clé, c'est-à-dire que ce n'est pas un dictionnaire des utopies,
Non.
parce qu'il eût fallu être exhaustif. Hein. Et puis d'ailleurs, il existe déjà le dictionnaire des utopies, c'est une universitaire qui s'appelle Michèle Rio-Sarcey, avec beaucoup d'autres chercheurs qu'il a publié chez Larousse depuis déjà, et qui est réédité régulièrement, ce dictionnaire des utopies. Et puis ça m'aurait empêché de parler de science-fiction. C'est pas un dictionnaire de la science-fiction, parce que là aussi, il en existe déjà plein.
Oui.
Et puis, dans le dictionnaire, il y avait cette idée tu vois, d'exhaustivité, de définition, etc. Donc, je me suis dit, eh bien, ça va être un dictionnaire utopique de la science-fiction, c'est-à-dire un dictionnaire amoureux qui va dire, à travers ses entrées, à quel point j'ai la conviction profonde et que je suis capable d'argumenter que l'utopie est prolongée par la science-fiction. Et que la science-fiction est capable de nous offrir des rêves de cité meilleure, de cité future, et d'interroger finalement tout ça. Donc en fait, pour bien te répondre, Le dictionnaire est utopique parce que c'est peut-être de ma part une volonté d'affirmer qu'il y a de l'utopie dans la science-fiction.
Oui.
Et c'est ce que j'ai voulu dire, finalement, tu vois. C'est ça l'identité profonde de ce dictionnaire. Et en même temps, il peut être utopique au sens plus, je dirais, plus général, populaire du terme. Presque souvent, on dit un peu péjoratif de quelqu'un, il est utopiste. C'est-à-dire, j'ai quand même une vision un peu utopique de la SF. C'est-à-dire, et ça m'a été parfois d'ailleurs reproché, j'ai tendance à voir la SF peut-être plus belle encore qu'elle n'est en réalité, et avec cette capacité incroyable de nous emporter ailleurs tout en nous faisant réfléchir. Et donc voilà. Et dès le départ, Dounia, évidemment, l'idée n'était pas du tout d'être exhaustif, mais de partir des thématiques qui m'intéressaient et d'avoir la place dans chaque entrée, d'avoir de la place en nombre de signes et en nombre de mots suffisants pour pouvoir dire des choses qui étaient à la fois référencées mais très personnelles. Et pour terminer, bah, la chance que j'ai eue, c'est que Roland Lehoucq a été très très vigilant. Il m'a dit, écoute, j'aime bien ton projet. Rédige-moi deux entrées, on va juger
sur
sur
pièce.
Produit, quoi, ouais. Tu vois, voilà. Alors j'ai rédigé la première entrée qui était Mars et la deuxième entrée qui était Institution. Et les deux lui ont beaucoup plu. Et à partir de là, il m'a dit feu vert. Et donc j'ai rédigé chaque entrée à environ à peu près en 15 000 signes, ce qui est quand même confortable, hein, comme espace,
Oui,
si tu
parce
veux.
que tu développes,
Voilà.
c'est ce qui est
Et
intéressant, ce n'est
là,
pas
voilà.
quelque chose de très sec comme un
Voilà, c'est ça. C'est
dictionnaire
pas des
peut l'être.
définitions, hein. Ça
Voilà.
prétend pas, ça veut pas être objectif ni exhaustif. C'est ni objectif ni exhaustif. C'est une proposition argumentée et une certaine lecture de la science-fiction. Voilà.
Et bah écoute, moi je propose qu'on va pas. Ce qui est intéressant, c'est que quand on le feuillette, on voit bien qu'il n'y a pas toutes les lettres de l'alphabet, il n'y a
Et
pas
oui,
de
il en
Z,
manque, ouais.
il y a deux
Alors,
fois
le
le
Z est
V.
le Z, c'est une petite pirouette. Il existe,
Et
hein,
où?
il s'appelle zone d'ailleurs, c'est le mot zone. Mais il n'est pas dans le dictionnaire, il est en ligne sur le site du Bélial.
Ah
C'est-à-dire
d'accord,
que
bah
c'est la seule
excuse-moi,
entrée
parle-nous.
dématérialisée.
Ah, t'as fait une entrée
J'ai fait
dématérialisée
une
parce
entrée
que moi, il s'arrête à
dématérialisée, ouais.
violence
Oui,
après
oui,
avoir
oui, oui.
fait vaisseau monde, voilà.
C'est ça, c'est
Oui,
ça. Il
oui.
n'y a pas toutes les lettres, effectivement. Mais il y a zone. Zone dans la version
Ce qui
purement
fait que
dématérialisée.
s'il y avait toutes les lettres, ça serait un partificiel, quelque
Oui, ou
part.
alors peut-être que, en fait, peut-être que dans l'avenir, si l'ouvrage est toujours lu et si l'intéresse, on pourra peut-être ajouter des entrées. Mais dès le départ, avec Roland, il était clair qu'il ne s'agissait pas de faire un pavé. Pas question de faire un pavé. Moi, encore une fois, tu le sais, hein, j'aime pas les pavés, donc ni en essai, ni en fiction. Et donc, les entrées devaient être choisies de façon raisonnée. Et donc, il y a plein de choses qui n'y sont pas. Puis, il y a des choses qui y sont, mais qui ont pris le temps d'être. Il y a 32 entrées, en fait, si je compte bien.
Et ça, c'est enfin, comment tu les as choisis? Comment tu as décidé quelles entrées t'intéressaient? Parce que quand on les lit, c'est quasiment des articles, c'est très personnel en même temps, c'est une approche qui n'est absolument pas académique pour le coup.
Oui,
Tu
tout à
as
fait.
une approche très, c'est presque pour donner, c'est-à-dire qu'on a envie de lire quoi après ce dont tu parles, ce que tu peux citer. On se dit tiens, ah bon, il y avait ça. Parce que en plus c'est très vaste. Ce n'est pas les romans uniquement sur les romans, ni c'est des thématiques. C'est un peu philosophique, un peu. Enfin, c'est très très enrichissant. Sinon, on le prend quand on en a besoin et on se dit tiens, qu'est-ce qu'il a dit sur les utopies ou sur les uchronies? Et puis, mais c'est pas ça en fait.
Oui, tout
Bon,
à
bah,
fait.
je te donne la parole parce que là, je l'ai un peu confisqué.
Non, 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 je t'en prie. Ben non, c'est moi qui parle trop. D'ailleurs, je suis toujours trop long dans mes réponses. Malgré l'âge venant et le sens de la simplicité, je continue toujours à être trop long. Mais en gros, d'abord, il y avait plus d'entrées. Dans une première version, je crois qu'il y avait une soixantaine d'entrées. Et j'avais mis toutes mes idées. J'ai gardé, hein, les fichiers parce qu'il y a eu pas mal de travail, hein, évidemment, de construction. Mais assez rapidement, avec Roland, toujours avec l'accord de Roland, hein, le Hook, assez rapidement, j'ai mis de côté les entrées, si tu veux, nominatives, voilà. C'est-à-dire faire une entrée Philippe K. Dick, Frank Herbert, voilà, Catherine Dufour, J'avais renoncé, tu vois, ou Joël Vintrobert, ou voilà. Je ne voulais pas des entrées nominatives. Ensuite, j'ai renoncé aussi aux entrées de cycle, qui auraient été le cycle de Dune, tu vois, le cycle de la culture, voilà. Parce que je voulais la transversalité. C'est-à-dire que je voulais que dans chaque entrée, il y ait des références, à la fois un peu pointues, des références très connues de culture populaire, comme par exemple Star Trek, tu vois, que j'évoque à plusieurs reprises. Et donc, je voulais de la transversalité. Et donc, très rapidement, on en est venu à réduire les entrées sur des concepts, sur des notions. Et si tu regardes bien le dictionnaire, je l'ai quand même repris à côté de moi, parce que bon, voilà, pour pas dire de bêtises, hein, elles sont toutes au pluriel. Tu vois, elles sont toutes au pluriel, hein, sauf peut-être la première, l'âge d'or. Et pourquoi elles sont au pluriel? Parce que l'idée, c'est qu'à chaque fois, je vais donner plusieurs sens ou plusieurs interprétations possibles
Voilà,
du mot.
c'est
Tu
l'intérêt de
vois,
justement de la démarche,
voilà.
en fait, oui.
Voilà, dans le mot origine, par exemple, je vais parler des origines de l'humanité dans la science-fiction, des origines aussi, par exemple, de la science-fiction elle-même, tu vois, comment est née la science-fiction, des choses comme ça. Quand je parle des ruines du futur, je vais prendre des exemples un peu partout. Et c'était l'idée vraiment de refuser d'avoir des entrées idolâtres, si tu veux, parce que c'est ça le risque, hein. Si j'avais dû écrire une entrée sur Robert Heinlein ou sur Robert Silverberg, ou sur peut-être Luc Fonny, le texte fondateur de Charles Renouvier, tu vois, j'aurais été peut-être un peu trop dans l'apologie, tu vois, finalement. Et donc, l'idée, c'était avec ce S au pluriel, c'était de partir d'un concept, partir d'une notion, et en montrer la pluralité d'interprétation dans la science-fiction. Et donc, eh ben, du coup, ça a réduit considérablement le nombre d'entrées. Il en restait quand même à peu près 45, hein, dans mon souvenir. Et sur ces 45, pour éviter de me répéter aussi, j'ai fait des choix au fur et à mesure, j'ai fait des choix. Et puis quand je suis arrivé à peu près à une quarantaine d'entrées, à peu près, j'ai commencé à rédiger en envoyant à chaque fois que je faisais une entrée, je l'envoyais à Roland pour avoir un aller-retour avec lui et pour pas lui donner à lire tout d'un coup, tu vois. Et au fur et à mesure, bah, il y a des entrées qui se sont avérées inutiles, tout simplement, ou que j'avais pas envie d'écrire parce que j'avais l'impression que j'allais me répéter. Et puis des entrées qui étaient peut-être un peu marginales, comme les planètes prison, les ruines du futur, les vaisseaux mondes, où certains auraient pu se dire, bon, ben, ça, c'est pas la peine d'en parler, tu vois, c'est trop pointu, et qui me tenaient évidemment à cœur. Et donc, ça a été une construction empirique, avec le cœur, pour arriver à cette liste d'entrées, d'une trentaine d'entrées, qui me paraît, voilà, qui me paraît suffisante, finalement. On pourrait toujours en rajouter, en fait, hein,
Oui,
mais.
c'est sûr.
Et l'idée, c'était
Après,
pas non plus de faire un livre qui soit un pavé.
mais ce qui est intéressant aussi, c'est que on apprend aussi beaucoup de choses sur l'histoire de la littérature de science-fiction, sur les concepts, sur la philosophie. C'est très très intéressant. C'est pour ça d'ailleurs que moi, je l'ai ouvert par curiosité, et puis finalement, je pense que ça peut être un livre de chevet. Enfin, il y a plein de choses, et je pense qu'il y a des articles qu'on peut relire après et redécouvrir encore des choses qu'on n'a pas forcément remarquées d'entrée de jeu. Non, c'est effectivement un travail qui est très intéressant, hein, en tout cas, pour le lecteur.
Je te remercie beaucoup. Je te remercie beaucoup parce que tu confirmes que j'ai, en tout cas pour toi, j'ai réussi parce que ce que je voulais, c'est que ce soit un livre de chevet, effectivement, où tu lis une entrée de temps en temps, alors où qu'il se trouve, d'ailleurs, dans quelques pièces de la maison qu'il se trouve, sur la terrasse, dans la chambre, dans les toilettes, ou dans la bibliothèque. Enfin, en tout cas, vraiment un livre comme ça, tu vois, qui puisse se vivre. Et pas lire de A à Z, je ne voyais pas l'intérêt de ça. Et alors, je suis très touché par le fait que tu aies noté la dimension, alors peut-être philosophique, c'est un bien grand mot, mais en tout cas la dimension de référence, parce que j'ai voulu, et là, pour le compte, ça me tenait à cœur, j'ai voulu montrer que dans la science-fiction, on retrouve les problématiques, notamment de l'histoire des idées politiques, et que donc, ce n'est pas du tout, par exemple, impossible, hein, de parler, alors évidemment, pour Platon, tout le monde le sait, Platon et la science-fiction, on en a tellement déjà parlé, mais de parler de John Locke, de parler de Rousseau, de
Tout
parler
à
de la
fait,
philosophie des Lumières, de parler du contrat social, tout ça, en lien avec la science-fiction, et puis même de mobiliser les rapports que peut avoir, par exemple, des récits comme le cycle de la culture de Banks ou même Star Trek, avec les ambitions de l'utopie du 18e ou du 19e siècle, ça me paraissait l'endroit où le faire, tu vois, l'endroit où le faire. Et c'est ça qui m'a motivé, sans en faire trop. Il ne s'agissait pas de faire du name-dropping, de toujours rebalancer des philosophes dans les entrées, mais de montrer à chaque fois que c'était possible que quand tel ou tel auteur de science-fiction parle d'une cité, les problématiques qu'il aborde sont les mêmes que ceux des philosophes et des utopistes qui, depuis Thomas More, se sont penchés sur la question de la sociabilité humaine, quoi, finalement.
Oui, puis on se rend compte que les écrivains de science-fiction n'ont pas forcément lu que de la science-fiction, entre guillemets, ils ont lu autre chose et ça transparaît après dans leurs œuvres d'une manière consciente ou inconsciente. Donc là, mais là, on rentre dans le domaine de l'histoire littéraire, du coup. Et donc, je vais prendre quelques entrées, si tu veux me dire ce que,
allez,
ce que ça
sûr,
te
bien
dit.
Sûr.
Donc, la première, hein, étant ancienne bibliothécaire, donc c'est bibliothèque, et puis je sais que tu es aussi très intéressée par cet aspect-là. Donc, les bibliothèques, pourquoi tu fais une entrée à bibliothèque?
Parce que je suis passionné par les bibliothèques. Voilà, un de mes plus beaux souvenirs d'enfance, c'est quand ma mère était à la. Donc à l'époque, ça s'appelait pas l'INSPE ou l'INSPE ou là, c'était l'école des instituteurs, tu vois. Et comme elle reprenait ses études après avoir eu deux enfants, moi j'avais 7, 8, 9 ans, tu vois. Elle allait. Alors à l'époque, ça s'appelait l'IUFM. Hein, je ne sais même pas si ça s'appelait comme ça à l'époque. Et comme elle n'avait pas de solution pour me faire garder, si tu veux, ben elle m'a amené avec elle. Et pendant qu'elle allait suivre ses cours pour redevenir ou devenir institutrice, elle me laissait dans la bibliothèque. Voilà. Et c'est là, notamment, dans ce genre de bibliothèque, où j'ai découvert les premiers récits de science-fiction, les premiers. Voilà. Je passais du temps dans ces bibliothèques, un peu isolées, mais c'était passionnant. Et j'adore les bibliothèques. Voilà. Je suis fasciné par la notion de bibliothèque, hein, par cette idée, non pas de l'intégralité du savoir, mais par cette idée qu'il y a. Dans une bibliothèque, il y a une telle diversité qu'il y a toujours des choses à trouver, à découvrir, qui peuvent surprendre. Voilà. Alors, j'ai voulu faire cette entrée bibliothèque parce que ben, je trouvais qu'il y avait d'abord des bibliothèques dans la science-fiction.
Oui,
alors, je t'en citerai au moins deux très différentes.
Vas-y.
Ben, la bibliothèque, par exemple, du Nautilus chez Jules Verne, où évidemment, le capitaine Nemo a sa bibliothèque. Et alors, on en vit. Je me rappelle des gravures d'Hetzel, enfin des gravures dans l'édition Hetzel. On a envie d'aller voir les ouvrages. Et puis de l'autre côté du spectre, dans Doctor Who, par exemple, dans l'une des saisons avec David Tennant, il y a une immense bibliothèque qui en fait se révèle être l'esprit d'une petite fille, hein, et avec des centaines de milliers d'ouvrages. Et puis ben, entre les deux, ben, il y a la bibliothèque de Babel de Borges, tu vois.
Oui.
Et donc moi, cette fascination pour la bibliothèque, je voulais la mettre dans le dictionnaire et montrer que la science-fiction est aussi, d'une certaine façon, en elle-même, une bibliothèque idéale, tu vois. Donc, il y avait quatre, il y avait le Nautilus, le Docteur Who, voilà. Et donc, ça, c'était une entrée, c'est une des entrées que j'ai préféré écrire. Enfin, c'est pas une des premières, hein, mais c'est une des entrées que j'ai préféré écrire.
C'est vrai que dans le premier Star Trek, il y a une histoire d'une bibliothèque
oui,
qui est
absolument.
Attaquée par des aliens.
Tout à fait. Les bibliothèques, on en trouve beaucoup, souvent des bibliothèques extraterrestres qui sont les derniers vestiges d'une civilisation, ou la bibliothèque, même dans Trantor, hein, dans Isaac Asimov, la bibliothèque de l'Empire, la bibliothèque du Temple Jedi dans Star Wars. Enfin, on peut en citer. C'est une figure narrative, la bibliothèque, qui me touche beaucoup. D'ailleurs, ma première nouvelle publiée, Dounia, Écrire l'humain, une toute petite nouvelle qui est beaucoup plus un conte que de la science-fiction, où les livres prennent la parole en l'absence des humains, c'était une bibliothèque. Voilà, tu vois.
Après, on connaît tous la Bible. Alors là, on n'est plus dans la SF, on est dans le fantasy. On connaît celle de Terry Pratchett, qui est extraordinaire.
Bien sûr.
Une bibliothèque qui est plus grande à l'intérieur qu'à l'extérieur.
Comme le tardiste des Docteurs Who.
Oui, exactement. Alors, il y a aussi une expression, une entrée dont le titre même est assez étrange. C'est histoire, au pluriel, toujours, comme tu dis, du futur. Alors, on a de l'histoire dont on pense que c'est derrière nous, du futur qui n'est pas arrivé. Pourquoi
Et
tu, qu'est-ce que tu as.
eh ben, alors cette entrée, pareil, hein, elle est venue inévitablement de deux sources. Hein. Bon, la première, la plus évidente, c'est que bah, beaucoup d'auteurs de science-fiction ont écrit des histoires du futur. Poul Anderson, Robert Heinlein, Serge Lehmann en France, par exemple. Et donc, ces histoires du futur, moi, m'ont toujours fasciné. Ma préférée de toutes. Même avant celle de Robert Heinlein pour le compte, parce que j'ai quand même beaucoup bossé sur Heinlein avec Eric Pichol pour cet essai qu'on a écrit dans les années 2010. C'est l'histoire du futur de Gardner Smith, un auteur américain, dans Les Seigneurs de l'instrumentalité, qui nous raconte toute l'histoire du futur de l'humanité avec beaucoup de poésie, beaucoup de très original. Donc l'histoire du futur, c'est un thème, c'est une thématique de la science-fiction, et pour moi c'était une thématique incontournable. Et puis bah, l'histoire du futur, c'est en fait tout simplement la meilleure façon de définir ce que je m'évertue à faire depuis bientôt 25 ans, 30 ans, c'est-à-dire à la fois être dans l'histoire et dans le futur.
Dans le futur,
Et donc si je me
oui.
situe quelque part, c'est dans le du, tu vois.
Oui.
Je suis le petit du entre les deux,
Oui, il y
c'est-à-dire
a
que
un
bah, je
dû,
fais de
c'est
l'histoire dans
petit.
la fac et puis je raconte des futurs hypothétiques dans la science-fiction. Donc je voulais montrer que c'était bien et que finalement, peut-être plus simplement encore, quand on fait de l'histoire et quand on est passionné par l'histoire, inévitablement, on est intéressé par le futur. Parce que quel est l'intérêt finalement de savoir comment tel empire s'est effondré, comment telle cité a été engloutie, comment telle révolution a libéré des individus, si c'est parce qu'on pense toujours. Sans faire de lien avec l'actualité. On pense toujours à ce qui va arriver, à ce qui pourrait arriver, ce qui pourrait être amélioré, au courage qu'il faut pour changer le monde. Et je ne crois pas que un seul passionné d'histoire, même les grands érudits, moi je ne suis pas érudit, hein, mais les grands passionnés d'histoire de quelques périodes que ce soit, je ne crois pas qu'ils soient juste là pour connaître, si tu veux, de façon exhaustive tout ce qui s'est passé, sans jamais le projeter ou l'interroger à la lumière de ce qu'ils vivent eux dans leur monde présent, si tu veux. Je crois que l'histoire interroge le présent et donc inévitablement toujours le futur. Et dans la science-fiction, ben, quand on a des histoires du futur, si tu regardes bien en fait, hein, pour prendre n'importe quel cycle que l'on connaît, il y a quand même tellement de choses qui ressemblent à ce qu'on a vécu dans l'histoire. Tu vois, je pense. Un auteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Guy Gavrielle Kay, qui est un auteur de fantasy et qui écrit toujours des choses sur l'histoire. Un de ses premiers textes qui était La Tapisserie de Fionnavard, qui était de la fantasy un peu mimétique, de la fantasy classique. Il y a toujours cette interrogation de comment utiliser l'histoire pour penser le monde. Voilà. Et donc, c'est, bah, pour moi, c'était une entrée qui était évidente, quoi. C'est une des premières entrées que j'avais
Tu t'avais
décidé de.
pensé.
auxquelles j'avais pensé. Ouais.
Alors, la suivante, c'est l'Uchronie, les Uchronies. Donc, tu lis la science-fiction et les Uchronies.
Alors,
Alors.
l'Uchronie, pour moi, donc elle fait partie de la science-fiction, en fait. C'est une des catégories aujourd'hui de la science-fiction, aujourd'hui, hein, on va dire en termes éditoriales. Ben surtout, l'Uchronie, c'est une branche de l'utopie, pour moi. Tu vois, dans mon travail académique, quand je parle de l'utopie avec mes étudiants, je dis toujours, il y a au moins trois formes d'utopie. On peut en rajouter une quatrième, mais je vais t'en faire grâce. Il y a l'utopie en tant que telle, l'utopie telle qu'on peut la définir de Thomas More. Il y a la dystopie, qui est donc l'utopie inversée, qui est volontiers catastrophiste, cauchemardesque et qui a une fonction critique, alors que l'utopie peut être aussi un programme politique. Tu vois, on va vers l'utopie. Et puis il y a l'Uchronie qui est arrivée au 19e siècle, sous la plume notamment d'un Français, qui s'appelait Charles Redouvier, qui était un philosophe républicain. Et qui a écrit donc cette Uchronie. Et qu'est-ce que c'est l'Uchronie? Ben, il le définit très bien, c'est une utopie dans le temps. C'est-à-dire, que serait le monde si tel ou tel événement du passé avait été différent? s'il avait eu lieu ou il n'avait pas eu lieu. Donc, eh ben, c'est très spéculatif. Or, moi, j'aime ce qui est spéculatif. Tu vois, j'aime la spéculation, le fameux et si. Et donc, l'Uchronie a cet avantage d'être à la fois aussi spéculative que la science-fiction et en même temps se réclamer de l'héritage de l'utopie. C'est-à-dire qu'elle essaye de nous décrire, finalement, des alternatives qui n'arriveront jamais et qui sont peut-être des mondes meilleurs, finalement. Tu vois? Et donc, ben Renouvier, par exemple, imagine, alors c'est un peu la tarte à la crème de l'Uchronie, hein, mais Renouvier imagine ce qui se serait passé si la République romaine avait été rétablie. Si après Marc Aurèle, par exemple, eh bien, l'Empire avait de nouveau cédé la place à une République romaine avec une citoyenneté, avec beaucoup de garanties, des droits des individus, etc. Qu'est-ce qui se serait passé? Et pourquoi il fait ça? Bah parce que lui, il vit dans un monde où il vit dans un monde où finalement bah, la République est perdue. Le rêve de 1848, qui était celui de la Seconde République, a échoué. Et il vit dans un monde, lui, où l'Empire, le Second Empire, s'est imposé. Et donc, il écrit l'Uchronie pour essayer de dire, ah bah si seulement on avait eu la capacité à rétablir la République ou empêcher l'avènement d'un Second Empire, on serait mieux. Voilà, tu vois, donc il y a une dimension à la fois description d'un monde meilleur qui aurait pu exister mais qui n'existera jamais, et en même temps, bah, côté très spéculatif de je vais me frotter à tous les arguments qui pourraient. Qu'est-ce qui change finalement dans. Et alors, ce qui me plaît beaucoup dans l'Uchronie aussi, c'est qu'elle n'a pas à être réaliste. Tu vois, y a des gens qui critiquent l'Uchronie en disant bon. Ils disent c'est pas réaliste, d'abord les choses n'auraient jamais pu se passer comme ça, tu vois, voilà. Mais en fait, on s'en fout. En réalité, c'est pas du tout le but, une uchronie, de dire ça aurait dû arriver comme ça, pas du tout. C'est qu'est-ce qui se serait passé? C'est purement un ici, en fait, hein.
Oui, c'est
Qu'est-ce qui
dans
se
la
serait passé?
spéculation, oui.
Et voilà. Et donc, c'est l'histoire comme un espace de fiction, tu vois, comme un espace narratif. Et donc, il faut jamais accuser l'uchronie de pas être crédible parce que c'est pas son but. L'Uchronie, elle est là pour nous faire réfléchir et se demander finalement quelles sont nos valeurs les plus importantes. Et voilà, donc c'est ça, pour ça que j'aime beaucoup les Uchronies. Et dans le
Et tu en as
dictionnaire,
rédigé une,
voilà.
tu en
Ouais,
as
j'en ai
écrit.
rédigé une, ouais, c'est vrai. Une, au moins peut-être deux, mais en tout cas à Tancrède. Hein, et
Tancrède, oui.
puis La Popis Républicaine, hein, qui était une de mes premières novellas. Voilà. Et là, l'Uchronie, alors bien évidemment, il y a le guide de Éric Henriet. Il y a le guide de Karine Goblet et Bertrand,
Campéis,
ben merci
Bertrand
Bertrand Campéis,
Campéis, oui.
excuse-moi, qui maintenant d'ailleurs ont beaucoup beaucoup énormément. Il y a le prix de l'Uchronie ActuSF, enfin c'est devenu voilà. Donc j'essaie pas du tout d'être exhaustif, mais juste de donner mon regard sur l'Uchronie et notamment sur les origines de l'Uchronie en science-fiction.
Alors, aussi une autre, parce que celle-là, je ne pouvais pas la louper, hein, c'est justice au pluriel.
Eh oui. Alors, justice, bah, c'est une des premières que j'ai rédigées. Hein. J'ai fait Mars, institution, et juste après, c'était justice. Bah, pour moi, justice, c'est. Alors, pour le compte, c'est peut-être l'une des cinq ou six entrées absolument incontournables, que je considère, moi, en tout cas, absolument incontournables, du dictionnaire. Pourquoi? Parce que j'ai la conviction qu'il n'y a pas de société sans justice et que la justice parfaite n'est pas souhaitable. Voilà, donc ces deux choses-là, je vais les développer très rapidement. D'abord, parce que la justice, c'est le fait d'accepter qu'en cas d'atteinte à notre intégrité physique, morale, notre liberté individuelle, on a confiance dans les structures que la société a mises en place pour nous défendre. Et qu'on ne choisit pas donc la vengeance. La justice, pour moi, est antithétique de la vengeance. Et donc, c'est la quintessence de notre sociabilité. Pour moi, il n'y a pas de société sans justice. Et la justice est la preuve que l'humain, l'être humain, est capable d'être social. Tu vois? Et ensuite, eh ben, il n'y a pas de justice parfaite parce que nous ne pouvons pas la souhaiter, nous ne devons pas la souhaiter, puisque cette perfection n'est jamais autre chose qu'une forme de totalitarisme, en fait. C'est-à-dire qu'une justice parfaite serait une justice qui prétendrait
Et qui n'évoluerait
qui
plus.
n'évoluerait plus d'abord, qui prétendrait connaître l'intégralité de la complexité d'un être humain, et donc de le résumer à à un algorithme qui serait infaillible. Et ça, c'est la pire des choses qui puissent arriver. Donc c'est pour ça que je sais que ça choque, hein, ce que je peux dire, mais c'est pour ça que toutes les justices sont par nature malheureusement faillibles et imparfaites. Il faut essayer qu'elles le soient le moins possible. Mais le juge, par exemple, la figure du juge me fascine, parce que c'est quand même une mission qui ne peut pas réussir. Un juge, il ne peut pas réussir. Il est obligé, à un moment donné ou à un autre, de faire un choix entre des solutions toutes insatisfaisantes, mais de le faire parce qu'il doit incarner ce que la société nous promet, c'est-à-dire de ne pas avoir recours à la violence. Et donc, dans la science-fiction, bah, si tu regardes bien, alors là, les exemples sont légion, hein. On aurait pu faire un essai sur la justice dans la science-fiction. Il doit en
Oui,
exister, hein,
c'est.
d'ailleurs. On a souvent à voir énormément de justices qui ne marchent pas, des justices totalitaires, des justices faillibles, des injustices. La science-fiction, tu pourrais construire un dictionnaire entier de A à Z, rien qu'avec les titres des ouvrages dans lesquels il y a des injustices. Tu vois? Et donc j'ai voulu parler de ça. Et là, pour le compte, c'est ce qui me tient le plus à cœur, hein. Moi, j'ai un cours d'histoire de la justice à la fac pour des étudiants de deuxième année. Et on parle énormément de ça. Hein. On parle énormément de ça, de la nécessité d'avoir une justice, même si elle est imparfaite. Et voilà. Et puis, bien sûr, il y a différentes façons de définir la justice. Et dans les différents textes de science-fiction et dans les différentes utopies, on retrouve ces différentes façons de. Et le monde de Julia, que je ne cite pas, parce que c'est Roland. C'est Roland. Je le dénonce pas, hein, parce qu'il a eu raison. Il m'a dit non, non, mais on ne parle pas du monde de Julia dans ton entrée sur la justice. Il faut que tu restes, toi, en tant qu'auteur, si tu veux, de l'entrée justice en dehors de tes problématiques de Julia. Il a eu raison, je pense, mais Julia existe précisément parce que je suis préoccupé et intéressé par cette question de la justice dans l'imaginaire et dans la réalité.
Oui, puis c'est effectivement, ça croise tout à fait tes questionnements, tes récits, ta vie même de ton métier. Enfin, donc
Absolument.
tu es peut-être venu pour rassurer tes parents, mais finalement, c'était pas si mauvais que ça comme choix.
Oui,
Tu
on
aurais
peut
pu
dire
faire
que oui.
informaticien ou autre chose,
Oui,
dis-le
mais
nous.
je pense que tu as raison. Je pense qu'ils ont eu raison. Je leur ai dit d'ailleurs avec le temps, ils ont eu raison. Mais il m'a fallu du temps pour le comprendre. Bon, j'aurais été sans doute un très mauvais philosophe. Si j'avais même abouti dans mes recherches et dans mes cours, ce qui est même pas probablement, qui serait peut-être même pas arrivé, en fait, finalement.
Alors, tu avais soumis deux entrées parce que l'idée c'était
Oui.
que je t'en propose. Tu m'as parlé des vaisseaux mondes et des violences. Donc, déjà,
Oui.
on commence par les violences et on peut en finir sur les vaisseaux mondes. Ça,
Oui, ben,
on
oui, on peut
partira
faire.
comme ça dans
On peut
l'espace.
faire, oui, tout à fait. On peut faire les deux d'ailleurs dans la foulée. Bon, les violences, j'en ai beaucoup parlé. Déjà, quand je t'ai parlé de justice, alors je voulais une entrée violence, même si elle n'était pas utopique. Hein, quand tu parles de violence, ça ne peut pas être utopique, parce que je travaille beaucoup à l'université, notamment sur les violences faites aux femmes, les violences de genre. C'est une thématique qui m'occupe beaucoup dans mon activité d'enseignant-chercheur, si tu veux. Je codirige voilà, un DU sur ces questions-là. Et les violences faites à l'individu, moi, me touchent. C'est-à-dire que je ne comprends pas pourquoi on ne peut pas extirper la violence du comportement individuel malgré toute l'éducation que l'on reçoit. Il y a une problématique de la violence qui revient sans cesse. Et c'est d'ailleurs ce que j'avais essayé de traiter dans un roman qui a du coup moins bien marché, qui s'appelait L'origine des victoires, où j'essayais de trouver une origine à la violence et comment on pouvait lutter voilà, contre la violence. Bon. Donc j'ai voulu quand même montrer que la science-fiction n'est pas candide.
L'origine des victoires chez Mémoire millénaire, qui est
Chez Mémoires
sorti
millénaires,
en
ouais,
2013,
c'est ça, et qui
tout
avait
à
été
fait.
repris ensuite chez Helios en poche dans Les Indés de l'imaginaire. Et voilà, et la science-fiction n'est pas candide sur ça. Elle est très violente, hein, parfois la science-fiction. Elle est même d'une violence très complaisante, hein, parfois, les textes extrêmement violents. Bon. Et donc, bah, il faut dealer avec ça, c'est-à-dire, en gros, l'idée, c'est bien qu'on ne sache pas comment résoudre la violence, sauf à tomber dans le totalitarisme absolu, ben, on peut lutter contre cette violence, et il y a différentes façons de le faire, et l'imaginaire en est une. Voilà. Et donc, j'ai voulu faire cette entrée malgré tout. Et quant au vaisseau monde, ben, j'ai toujours été passionné par ça, par tu sais, les vaisseaux générationnels, les vaisseaux qui deviennent un monde, c'est-à-dire, c'est pas un moyen de transport, les vaisseaux deviennent un monde à part entière, soit parce qu'on y passe du temps, soit parce qu'on oublie qu'il y a le monde à l'extérieur. Et pour moi, ben, les vaisseaux monde, c'est sans doute la plus belle métaphore de l'utopie. C'est-à-dire qu'un vaisseau monde, que ce soit un vaisseau générationnel, que ce soit un satellite artificiel ou une station orbitale qui se coupe du monde, qui s'enferme sur elle-même, que ce soit Babylon 5 ou Deep Space Nine, par exemple, dans les séries télé, c'est un monde à part entière, c'est un monde fermé, avec ses règles, avec ses difficultés, avec ses bons côtés, avec ses mauvais côtés, avec ses crises, avec ses problématiques de ressources, avec ses problématiques de pouvoir. Pouvoir qui est d'ailleurs une autre entrée
Oui.
du dictionnaire. Et donc pour moi, ben, parler quand tu écris sur un vaisseau monde, tu fais de l'utopie en fait, littéralement. C'est-à-dire tu décris un système généralement fermé, ou en tout cas, même s'il n'est pas fermé, c'est un système qui fait toujours la différence entre ce qu'il est et l'extérieur. Voilà. Et donc cette entrée, elle était, voilà, c'est vraiment une entrée du cœur. Et alors, bon, il y a des vaisseaux monde chez beaucoup d'auteurs de science-fiction. Et pour revenir au Nautilus, il y avait une petite scène comme ça qui m'avait marqué dans une des adaptations je crois que c'est l'adaptation de Walt Disney, de 20 milieux sous les mers, où à un moment donné, le personnage de Nemo, dans son salon, avec la carte du monde et tous les appareils, il explique en fait le Nautilus, c'est un monde à part entière. Et c'est un vaisseau. Donc pour moi, le Nautilus, tu vois, c'est peut-être excessif, hein. Je serais peut-être critiqué par les puristes, mais c'est le premier vaisseau monde de l'histoire de la science-fiction. Puisque quand tu es dans le Nautilus, bah, tu oublies, il y a des règles différentes. Et tu ne peux pas facilement en sortir parce que dehors, bah, c'est
Bah
le monde aquatique.
oui,
Voilà. Tu vois, tu peux pas comme ça
la
dire,
profondeur,
bon, bah,
oui, c'est
écoutez, à
sûr.
tout à l'heure, je m'en vais. Et donc voilà, pour moi, finalement, l'entrée vaisseau monde, prouvait que écrire un dictionnaire utopique de la science-fiction, bah, c'est pertinent. Puisque dans la science-fiction, partout dans la science-fiction, il y a plein de petites utopies qui sont presque insérées, serties dans des univers narratifs beaucoup plus vastes. Qu'est-ce que l'Enterprise, si ce n'est un vaisseau-monde, hein? Quand tu connais l'équipage, quelle que soit la déclinaison, quelle que soit la série que tu prends, c'est un monde, avec ses règles, avec ses problèmes, avec ses incertitudes, avec ses valeurs. Et donc voilà pourquoi j'ai voulu cette entrée-là. Qui fait vraiment partie, en fait, c'est un peu presque bête de dire ça, mais toutes les entrées sont des entrées de cœur, mais
Oui.
certaines, comme Justice, comme Vaisseau Monde,
Sont
plus que
plus
d'autres
aimés que
encore.
les autres.
Ouais, plus que d'autres encore.
Bon, on arrive au bout là. Avant que tu nous parles un peu de tes projets, j'aimerais que tu aies derrière toi un tableau dont on a un peu
Ah,
parlé avant de
oui.
commencer. Et
Oui,
j'aimerais bien
oui.
que tu nous en parles. On le voit, on
Ouais.
arrive à le voir.
Je peux vous le
C'est
montrer
un
de près.
portrait.
Alors
Voilà
tout à l'heure,
ça.
la personne que vous avez vue passer, c'était Clément, c'était mon fils,
On s'est douté.
parce que je suis chez moi, voilà. Et donc voilà ce tableau, je peux vous le montrer. Il me tient à cœur beaucoup,
Il y
ce
a une
tableau.
montgolfière.
Alors voilà, je vais vous le montrer. D'abord, c'est un tableau qui a été peint par un auteur de science-fiction italien qui s'appelle Tommaso Pinchot, et qui m'a été offert, figure-toi, Dounia, aux premières Utopiales dont j'ai été le délégué artistique.
Ah
En
oui.
2012, c'est marqué d'ailleurs, tu vois, Utopiale 2012. Et j'avais invité Tommaso Pinchot, voilà. Et il m'a offert ce tableau pour me remercier. C'est mon premier cadeau en tant que délégué artistique, que j'ai accepté, évidemment. Et il me plaît
Oui.
beaucoup ce tableau parce que si tu le regardes attentivement, je ne suis pas trop, trop plus zoomé que
Ben,
ça.
on voit une
Fait
montgolfière, on
référence,
voit
voilà, à
un
plusieurs
hublot.
romans de Jules Verne,
Ouais.
La Montgolfière de 5 semaines en
Oui.
ballon ou de Le tour du monde en 80 jours, le hublot du Nautilus,
Nautilus,
et
oui.
puis la petite, enfin, ce que tu vois, le satellite, enfin, la Lune qui renvoie au diptyque de la Terre à la
Oui.
Lune et autour de la Lune. Et j'aime beaucoup ce tableau, voilà. Alors, je ne suis pas un Vernien, hein, je ne suis pas un spécialiste de Jules Verne. J'ai pas cette prétention, d'ailleurs, moi, pour te dire les choses, j'adore me voir comme un dilettante passionné, c'est-à-dire quelqu'un qui ne prétend jamais à l'érudition, mais par contre qui s'autorise à discuter de choses qu'il connaît un petit peu, qu'il a lues. Et donc voilà, j'adore Jules Verne, mais je ne suis pas du tout un Vernien et je n'ai jamais prétendu à l'exhaustivité. À la limite, étant donné que j'ai travaillé avec Éric Pichol sur cet essai sur Heinlein, je pourrais à la limite dire que je suis un peu heinleinien, mais là encore, malgré cet essai qui a été une magnifique aventure intellectuelle aux côtés d'Éric, je ne suis pas non plus exhaustif sur Heinlein, hein, en réalité. Et donc voilà. Mais c'est des choses, tu sais, c'est des repères identitaires pour moi. Voilà, moi, la science-fiction, c'est ma famille. Je me sens à la maison. Et j'ai ces repères identitaires qui sont ma famille. Jules Verne en fait partie. Et c'est ce que j'ai essayé d'exprimer dans le dictionnaire, finalement.
Et pour terminer, donc tu fais quoi en ce moment, à part finir l'année universitaire?
Alors, écoute, Dounia, je finis l'année universitaire et j'en peux plus, je suis épuisé, tu vois.
Je comprends.
C'est d'ailleurs pour ça que mes réponses sont sans doute un peu trop longues, mais en tout
Non, quand même pas.
cas, bon, en tout cas, non, j'ai prévu d'écrire, mais des choses courtes,
Des nouvelles, tu reviens
des
aux
nouvelles,
nouvelles.
voilà.
Oui.
Principalement, je reviens aux nouvelles. Hein. J'ai un très très vieux projet maintenant qui remonte à plus d'une dizaine d'années, mais c'est toujours une dizaine d'années. Hein. La date. À peu près la moyenne d'aboutissement de mes projets, c'est entre 8 et 10 ans, tu vois. Tancrède, c'était ça. Le monde de Julia, il a fallu ce temps-là. Bon, le dictionnaire, j'y pensais depuis 5-6 ans, mais la formalisation est venue après. Sur les contes étrusques, en fait, écrire des contes
Oui.
étrusques, parce que j'aime beaucoup la
Et
civilisation étrusque.
qu'est-ce que tu
Voilà.
appelles écrire des contes étrusques parce qu'on ne connaît pas grand-chose de cette
Et ben
culture?
justement, rendre hommage, alors ce serait peut-être un peu plus vers la fantaisie ou peut-être même le fantastique, parce que je m'intéresse beaucoup au fantastique, comme au tout premier temps d'ailleurs de mon parcours d'écrivain.
Oui.
Donc peut-être des contes fantastiques, je les ai en tête, hein, je sais ce que j'ai à écrire, une douzaine de contes, puisqu'il y avait une douzaine de cités étrusques avant Rome. On est dans une sorte de civilisation un peu interstitielle entre la Grèce et Rome. Et je pense les écrire de façon fantastique, mais au fil de l'eau. Donc, enfin voilà, vous ne risquez pas de voir paraître les contes étrusques avant les années 2020-30, enfin 2028-2030, hein, dans le meilleur des cas. Dans le meilleur des cas,
On va être patient.
voilà, si ça aboutit. Sinon, des nouvelles, principalement des petites nouvelles, qui souvent me sont proposés pour des anthologies et que j'écris voilà avec un grand bonheur. Mais l'année 2023 ayant été très riche avec le monde de Julia et le dictionnaire, je serai pas très 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 productif, hein, je le dis, hein, probablement dans les 2-3 années à venir, quoi, voilà. Mais je continue, je n'arrête en aucun cas
D'écrire,
d'écrire.
ça c'est important.
Voilà.
Bah écoute, voilà, on arrive à la fin. Je te remercie beaucoup de cet échange, hein. Donc, ça faisait un moment que on voulait se rencontrer et de parler de ton écriture. En tout cas, je remontre le dictionnaire donc utopique de la science-fiction qui est paru chez le Bélial. C'est un essai, mais ce n'est absolument pas un travail universitaire. C'est un travail de passionné de littérature finalement et d'histoire, parce qu'il y a beaucoup d'histoire dans ce que tu dis, tu écris. Il y a aussi Le Monde de Julia, qui est un livre, enfin, qui est très étrange, mais dans le très bon sens du terme. On est vraiment dans un étrange univers, mais il était écrit donc par Jean Barré et Hugo, et Bella Gamba, qui lui parut chez Mnemos, chez Mu. Donc ce sont des ouvrages récents qui sont encore dans les librairies, donc on peut les trouver sans difficulté. Et voilà, donc je te remercie de nous avoir reçus dans avec ta bibliothèque patrimoniale derrière de science-fiction.
Écoute, moi, je te remercie infiniment aussi pour une chose en particulier, Dounia, au-delà de on se connaît depuis longtemps et des échanges qu'on a eus autour de Nice Fiction, parce que n'oublions pas que Nice Fiction a joué un rôle très important aussi. Tu es très, très fier d'avoir participé à la création de Nice Fiction il y a une dizaine d'années maintenant et d'avoir travaillé avec toi, avec Sybille, avec tout le monde. Mais surtout pour le temps que tu donnes à tes invités, parce que bien souvent, quand on a une discussion, une interview, c'est un quart d'heure, 20 minutes maximum. Là, on a parlé peut-être plus d'une heure et ce temps-là qui permet de dire des choses très personnelles, finalement, c'est extrêmement appréciable. Et puis, dans une ambiance très chaleureuse et tout. Donc, merci infiniment.
Ben, je te remercie, mais c'est dire que... Il y avait à dire, hein, de toute façon, une heure, on aurait pu parler encore une heure, je pense, facilement. Voilà, donc, alors à très bientôt à Nice, en tout cas, ou sur un festival, puisque tu vas reprendre ton bâton de pèlerin et circuler pour aller à la rencontre des gens, ce qui est quand même une force chez toi et une très belle qualité. Et puis, j'espère te lire bientôt encore. Au revoir, Hugo Bellagamba,
Merci,
et à bientôt.
merci. Au revoir.